Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Je suis Céline Guerrero, enseignante et formatrice Montessori. Chaque semaine, je vous livre des outils concrets pour votre classe pour que vous puissiez contribuer au plein épanouissement de vos élèves et à votre plein épanouissement. Dans ce podcast, vous allez plonger au cœur de la pédagogie Montessori et de la neuroéducation et trouver des outils pour votre classe. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés avec vos amis ou collègues. Et depuis peu, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant pour 5€ par mois. Le lien est dans les notes de chaque épisode. Alors, juste une petite annonce pour vous parler de la direction dans laquelle j'aimerais emmener le podcast. Ça sera très court et juste après, vous pourrez écouter ma conversation, mon échange avec Natacha. Depuis 2 ans et demi, j'ai interviewé de nombreux experts sur le podcast. Et bon, il y en a encore quelques-uns qui me résistent. Hein. Voilà, il y a 5 personnes que j'aimerais, avec lesquelles j'aimerais vraiment échanger et j'ai pas encore réussi. Stanislas Dehaene, Jean-Philippe Lachaud, Olivier Houdet, Christian Maréchal et Céline Alvarez. Voilà. Donc si vous les connaissez personnellement, aidez-moi à les interviewer, à faire en sorte que je puisse les interviewer sur le podcast. Mais j'ai envie, en fait, pour les prochains mois, de continuer d'interviewer un expert par mois environ. Mais comme je publie un épisode, j'essaye de publier un épisode chaque vendredi, pour les autres épisodes, j'aimerais en fait échanger avec vous, qui êtes sur le terrain. Quand je dis « vous », je m'adresse surtout aux professeurs des écoles de la petite section CM2. Ce que j'aimerais, c'est que vous m'envoyiez votre question. Comme ça me laisse le temps un petit peu de me préparer avant notre échange. Et j'essaye en fait pendant 20 minutes, 30 minutes, le temps qu'il faut, j'essaye de vous répondre. Mais vous êtes là aussi avec moi et c'est vraiment une discussion, on échange. Je ne réponds pas voilà, toute seule avec juste une question envoyée par écrit sans le contexte. Ça, c'est plus difficile. Si vous êtes en maternelle, là où je suis le plus à même de vous aider, ça va être par rapport à la pédagogie Montessori. Les fonctions exécutives, hein, tout ce qui concerne Montessori et les neurosciences. Si vous êtes en élémentaire, là où je vais être le plus à même de vous aider, ça sera sur les neurosciences affectives et sociales et les neurosciences cognitives. Tout ce qui concerne apprendre à apprendre. On pourra parler de l'attention, de la motivation. Voilà la direction que j'aimerais prendre pour le podcast. Et donc ça représenterait environ 3 épisodes par mois. Et le 4e serait une interview avec un expert. Donc je compte sur vous pour m'envoyer vos questions. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec Natacha. Nous avons abordé dans cet épisode le sujet de la motivation avec Natacha Dangoulov, qui est professeure d'histoire géo en collège et formatrice académique dans l'Académie de Créteil. Elle est co-auteure d'un ouvrage paru chez Nathan dans la collection du Labo à la classe. Soit dit en passant, j'adore cette collection. Stimuler l'envie d'apprendre, les leviers de la motivation, coécrit avec Damien Tessier et Rebecca Shankland. Donc Natacha nous a expliqué les 3 leviers de la motivation. Motiver vos élèves en soutenant leurs besoins d'autonomie, motiver vos élèves en soutenant leurs besoins de compétences et motiver vos élèves en soutenant leurs besoins d'affiliation. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle a donné vraiment des exemples concrets pour illustrer chaque besoin. Je laisse place à ma conversation avec Natacha Dangoulov. Autant faire profiter nos invités de nos quelques minutes d'échange là en amont. Donc, bonjour Natacha.
Bonjour Céline.
On était en train de parler justement du collège. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour mes invités et leur expliquer pourquoi votre ouvrage, vous l'avez écrit pour les enseignants du collège?
Avec plaisir. Donc, moi, je suis prof d'histoire géo et formatrice sur l'Académie de Versailles. Et je travaille en tant que formatrice donc sur la motivation scolaire depuis un peu plus de 10 ans. Moi, j'interviens en formation continue des profs de collège et de lycée, donc dans le second degré. Et je suis sur les thématiques donc de la motivation scolaire, bien sûr, du décrochage scolaire et puis aussi de la gestion de classes difficiles, la gestion des comportements difficiles des élèves. Donc ça, c'est une grosse partie de mon activité au quotidien de travail, c'est d'aller dans les établissements scolaires, dans les collèges et les lycées, former des équipes d'enseignants en transversale, donc pas du tout dans ma matière, hein, là, en équipe transversale de profs pour essayer de, par exemple, remotiver des élèves ou essayer d'agir sur des classes spécialement difficiles avec beaucoup d'élèves décrocheurs. Et puis j'ai une autre partie de mon temps un peu plus réduite, où je suis prof d'histoire géo dans un lycée de banlieue parisienne, où ça m'a permis de tester la plus grande majorité là, des stratégies qu'on présente dans le livre que j'ai écrit donc, avec Damien Tessier et Rebecca Schlankland. Et puis, j'ai une troisième activité, je suis aussi chercheuse associée dans un laboratoire de sciences de l'éducation et de la formation, donc au CNAM à Paris, qui s'appelle le FOAP, Formation et Apprentissage Professionnel, où là, j'ai terminé l'an dernier une thèse sur la relation pédagogique avec toute une partie historique sur l'évolution de la relation pédagogique en France depuis le début du XXe siècle. Je suis agrégée d'histoire, donc j'ai gardé un petit peu une partie historique dans mes recherches. Et puis une autre vraiment sur la formation des profs, où là, pour ma thèse, moi, je suis spécialisée vraiment sur tout ce qui est apprentissage expérientiel et donc tout ce qui est mise en situation, jeu de rôle, théâtre, forum, qu'on peut utiliser en formation des profs pour arriver à changer des habitudes ancrées, en particulier en formation continue, dans la manière de communiquer avec les élèves. Donc voilà, donc ça fait trois activités professionnelles, mais qui tournent toujours autour de la motivation et de la formation des profs pour avoir des enfants plus heureux d'apprendre à l'école, on va dire,
globalement. D'accord. Donc vous êtes bien occupée, voilà, en partageant votre temps entre ces trois activités.
Voilà, bon, mais c'est toujours sur le même thème, donc oui. Ça va.
Et du coup, moi, j'avais noté, alors je ne sais pas si c'est correct, présidente de l'A2FE, l'Association française des formateurs d'enseignants.
Exactement, parce que c'est vrai que c'est quand même le sujet central qui m'intéresse le plus, c'est la formation des profs, ouais. et leurs formateurs, donc, à ces profs, hein, parce que c'est un des éléments de contexte qu'on explique dans le livre là, sur stimuler l'envie d'apprendre. C'est la particularité française, c'est d'avoir des profs extrêmement peu formés sur la relation pédagogique et des profs qui participent extrêmement peu à des actions de formation continue. Alors, je parle surtout des profs du secondaire, en primaire. Il y a une obligation qui est respectée. Dans le secondaire, il y a une obligation de formation qui est très récente, mais qui n'est pas encore mise en place en pratique, mais qui a été votée il y a peu de temps. Et c'est vrai que voilà, il y a vraiment ça débute, on va dire. Donc il y a des formateurs, mais avec des statuts extrêmement différents selon les académies, c'est très très divers. Et donc c'est pour ça que j'ai créé il y a quelques années maintenant. C'est récent, on va dire, mais depuis 2 ans maintenant, la 2FE avec des formateurs de plusieurs académies qui voulaient justement promouvoir une formation de qualité pour les profs, parce que souvent les profs se plaignent de ne pas avoir de formation, et quand ils en ont, ils se plaignent aussi de la qualité de la formation. Moi, je pars du principe que c'est des professionnels qui connaissent très bien leur métier, donc s'ils s'en plaignent, c'est que ça ne va pas, c'est que la formation n'est pas de qualité. Donc, comment faire pour avoir une formation de qualité? C'est vrai que le côté motivation des élèves, c'est aussi la motivation des profs, hein, pour être bien dans son travail, et à un moment, pour avoir le sentiment de faire bien son travail. Il faut pouvoir avoir accès à de la formation de qualité et à des formateurs qui s'y connaissent, qui ont du temps pour être formateurs aussi, qui ne font pas juste 2-3 jours dans l'année de formateur et puis après le reste du temps ils sont profs, hein, comme c'est dans le second degré majoritairement. C'est une situation très très différente du premier degré. C'est une association qui est plus tournée vers le second degré et on travaille avec aussi une autre association de formateurs qui est elle plus tournée vers les CPC, les conseillers pédagogiques du premier degré. Voilà. L'idée, c'est que ça progresse pour tout le monde et que les profs aient un accès à un développement professionnel un peu plus efficace que ce qu'il y a maintenant.
Voilà. Super. Bon, maintenant que voilà, on a posé le décor, vous allez pouvoir, on va pouvoir rentrer dans le sujet du jour, donc la motivation. Ce que je vous propose, alors peut-être que les deux parties vont s'imbriquer, mais peut-être dans un premier temps, déjà définir ce qu'est la motivation, l'envie d'apprendre, et ensuite, concrètement, voilà, quels sont les leviers pour nos élèves, parce que j'imagine, enfin, tout ce que vous allez nous dire, ça, même si vous, votre expérience est dans le second degré, ça s'applique aussi dans le premier degré, donc voilà. Peut-être ces deux parties qui vont peut-être s'entremêler à certains moments, mais voilà ce que je vous propose.
D'accord, ça marche. Bah, je dirais que je serais peut-être plus rapide sur la première partie, sur le côté théorique de la motivation, parce que on a voulu le livre vraiment axé sur les pratiques concrètes du métier d'enseignant. Donc là, par contre, en effet, il y a énormément de choses qui sont transférables dans le premier degré. Mais c'est vrai que ce qu'on a voulu, c'est vraiment un livre Alors, plus pour les vraiment pour les profs, hein, et sur les pratiques de classe avec les conditions pour que ça soit applicable. Parce que l'idée de notre livre, c'est que donc moi j'avais eu une formation donc, par Damien Tessier et puis j'avais discuté beaucoup avec Rebecca Shankland, donc qui tous les deux sont des chercheurs spécialistes de psychologie de l'éducation. Donc Rebecca plus largement sur la psychologie positive et puis Damien vraiment spécialiste sur la motivation scolaire. Et parfois il me disait des choses en théorie, je me disais ah oui c'est super, mais enfin dans le contexte du collège, j'aimerais que tu vois, c'est pas facile. Donc vraiment l'idée c'était d'écrire ce livre à trois en disant qu'est-ce que dit la théorie et qu'est-ce que ça peut donner vraiment concrètement dans le contexte actuel du collège, donc en ciblant plutôt sur le collège en tant que niveau... Ils ont plein de défis éducatifs, on va dire, à l'heure actuelle, même s'il y en a énormément aussi à l'école et au lycée, bien sûr. Mais bon, on a voulu cibler surtout les exemples qu'on a pris, mais après, on peut les transposer. Donc, sur le côté théorie de la motivation, on se base en psychologie de l'éducation sur la théorie de l'autodétermination de Dessy et Ryan. Et ce qui nous intéresse, nous, parce que ce n'est pas la théorie en tant que telle sur la motivation, c'est comment, en tant que prof, j'organise un climat motivationnel dans ma classe. Et qu'est-ce qui fait que quand je vois passer sur Twitter ou sur education.gouv des super idées de modalités pédagogiques, qu'est-ce qui fait que ça peut motiver mes élèves? L'idée était vraiment de sortir de l'effet de mode un peu des modalités pédagogiques en disant il faut faire travailler les élèves en groupe ou il faut faire des plans de travail ou il faut faire de la coopération. Il y a un peu des effets de mode. L'idée, c'était d'avoir cette théorie qui permette de dire bon, ok, mais à quelles conditions mon travail de groupe, ça sera motivant pour les élèves. Parce que ce n'est pas forcément magique en tant que telle, la modalité pédagogique. Donc, dans cette théorie du climat motivationnel, l'idée centrale, c'est que chacun, donc là, les élèves, pour ce qui nous intéresse, apprend mieux et a une motivation de meilleure qualité quand il a ses trois besoins psychologiques fondamentaux qui sont satisfaits. Donc, c'est une théorie qui est vraiment centrée sur ces trois besoins psychologiques fondamentaux. Le premier, c'est le besoin ou le sentiment d'autonomie. Donc autonomie au sens pas je travaille tout seul dans mon coin, mais l'autonomie vraiment au sens de pouvoir d'agir, c'est-à-dire que je peux prendre des décisions, je peux choisir des choses, j'ai un peu de pouvoir sur ma vie, hein, vraiment au sens de pouvoir d'agir, le sentiment d'autonomie. On a commencé dans le livre par ce sentiment-là et les stratégies qui en découlent. Je pourrais en donner quelques-unes après, parce que pour moi, c'est le plus compliqué hein, dans le contexte actuel du collège, c'est de laisser des choix aux élèves, c'est qu'ils aient le sentiment d'être un peu acteurs de certaines décisions, et puis que ce qu'ils sont en train d'apprendre, ça a du sens pour eux. Dans un contexte de très très forte contrainte scolaire, c'est pas évident. Donc le premier sentiment pour une motivation scolaire de qualité, c'est le besoin d'autonomie. Ensuite, il y a le besoin de compétences. Le besoin de compétences, c'est en tant qu'élève, je me sens capable de faire ce que demande le prof. C'est peut-être un peu dur, mais c'est pas complètement hors de portée. Je pense que je peux y arriver. Donc le sentiment de compétence aussi, il va être fondamental. Alors là, il est plus classique, on va dire, c'est un peu le cœur du métier des profs. C'est de créer des modalités pédagogiques qui font que les élèves progressent en y arrivant, que ça soit ni trop facile, ni trop dur. Donc sentiment de compétence. Et puis, le troisième besoin psychologique fondamental pour tout être humain, c'est le besoin d'affiliation ou d'appartenance. C'est-à-dire se sentir respecté dans un groupe, se sentir à sa place là où on est, et se sentir respecté par les autres. Ça ne veut pas dire forcément avoir plein de copains hein, et être dans un super groupe d'amis, mais c'est juste de se dire, j'ai toute ma place là où je suis, voilà, dans cette classe, je suis à ma place et je me sens bien, je me sens en sécurité, je ne me fais pas humilier, on ne se moque pas de moi, le prof, il a l'air de croire en moi et de penser que j'ai toute ma place d'être ici. Donc finalement, c'est vraiment ces trois besoins, c'est le soutien de ces trois besoins qui va amener à avoir un climat motivationnel de qualité, où les élèves vont s'engager dans les apprentissages, parce que c'est ça qu'on veut en tant que prof, c'est que les élèves apprennent quelque chose, hein, c'est ça notre objectif. Et pour qu'ils apprennent quelque chose, donc il faut d'abord qu'ils s'engagent dans les apprentissages. Hein, donc, s'engager, ça veut dire essayer de faire ce que demande le prof, persister dans cet effort et puis arriver à en retenir quelque chose. Et pour avoir cet engagement, ce qui marche le mieux, c'est donc une motivation qui soit au maximum autodéterminée. Donc autodéterminée, c'est-à-dire que c'est le sentiment d'autonomie, c'est j'ai décidé par moi-même que c'était important pour moi le collège ou l'école en général. Donc une motivation autodéterminée où l'élève se sent compétent pour faire ce qu'on lui demande et où l'élève se sent affilié, se sent appartenir au groupe où il est. Donc ça, c'est vraiment la théorie. Donc c'est que la théorie dit que le prof, son job, c'est de faire tout en sorte pour que l'élève sente satisfait son besoin d'autonomie, son besoin de compétences et son besoin d'affiliation, de proximité sociale aussi, on dit en psycho de l'éducation. Donc ça, quand on regarde juste la théorie comme ça, c'est tout à fait étayé scientifiquement. Hein. C'est pour ça qu'on a publié le livre, on voulait vraiment cette collection chez Nathan qui nous semblait...
intéressante. On l'a pas cité pour
ça. Ouais, parce que c'est cette collection là qui s'appelle Du labo à la classe, qu'a sorti Nathan il y a quelques temps, avec vraiment cette idée de dire bon bah on a des connaissances maintenant solides scientifiques sur ce qui fait apprendre les élèves et qu'est-ce que ça donne en classe. Donc ils ont commencé avec les livres sur les connaissances venues des neurosciences, hein, les sciences cognitives sur surtout la mémorisation, l'attention. Et qu'est-ce que ça pouvait donner en pratique de classe. Et puis, donc, nous, on leur a proposé, on a travaillé avec Stéphanie Dizel-Doumange, puis Marie Létang aussi, qui nous ont accompagnés toutes les deux, parce qu'on leur a dit, voilà, nous, on veut le labo de psycho de l'éducation, cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le contexte des sciences cognitives, on est dans un contexte de psycho de l'éducation pour la théorie, et on veut se voir qu'est-ce que ça donne dans le métier de prof, en concret, dans la classe. Donc c'est pour ça que c'était vraiment cette idée de dire on reste pas dans la théorie et on reste pas non plus dans des exemples de méthodes pédagogiques précises. Parce que ça, c'est pas que c'est pas important, c'est que ça existe déjà en fait. C'est-à-dire qu'il y avait déjà plein de livres super bien sur des thèmes pédagogiques vraiment spécifiques, la classe coopérative, l'évaluation, la différenciation. Ça existait déjà. Moi, je les utilise tous les jours pour mes formations et c'est très bien. Par contre, ce qui manquait, c'était d'avoir un livre qui fasse le lien vraiment entre la théorie et puis qu'est-ce que ça donne en exemple pratique, sachant qu'en plus, moi, c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est quand même les exemples. Enfin, je comprends mieux quand on me dit oui, tu vois, c'est quand l'élève machin, il fait ça. Et bien, voilà. Enfin, j'aime bien avoir des exemples un peu concrets. Et j'avais envie d'un livre où vraiment il y ait des exemples très concrets et où on voit comment le prof, face à un problème, teste plusieurs stratégies pour arriver à motiver ses élèves. Et l'idée aussi, c'était d'essayer de rendre aussi un peu la complexité du métier enseignant, de faire ressortir cette complexité. Parce que souvent, je trouve qu'en pédagogie, c'est parfois un petit peu rapide, un petit peu. En fait, je trouve qu'on est souvent entre deux extrêmes. Et moi, j'aime pas trop les extrêmes, j'aime bien l'équilibre. Donc, je trouvais qu'on était souvent entre soit il n'y a pas de recette, c'est impossible, tout cas est particulier, débrouillez-vous. Ce que je trouve ultra angoissant quand on est prof. C'est le discours que j'ai eu en formation initiale. Je trouve qu'il est terrible comme discours parce que. C'est surtout quand on est en formation initiale, en arrivant, le côté il n'y a pas de recette, chaque cas est unique, allez-y, bon courage.
C'est pas vrai non plus.
Voilà, donc ça c'est un extrême qui n'est pas vrai du tout non plus. Et puis après, parfois il y a des extrêmes un peu sur. Voilà, il y a cette méthode miracle. Voilà, si vous faites ça, tout sera génial. Et souvent, on voit que derrière ces méthodes. Et puis, il y a tout cet enthousiasme du prof pour une méthode. Et souvent, c'est l'enthousiasme du prof qui fait que ça fonctionne bien, voire encore mieux, l'enthousiasme de toute une équipe pédagogique autour d'une méthode. En fait, c'est parce que, sans se rendre compte, les profs construisent un fort sentiment d'appartenance parce qu'ils ont une classe à projet, ils sont contents de travailler entre collègues, ils transmettent le fait que c'est une classe spéciale aux élèves. Et puis, quand les profs veulent vraiment tester une méthode pédagogique, ben, ils lisent beaucoup. Donc, ils vont faire quelque chose de très solide côté sentiment de compétence des élèves. Ils vont construire des choses très, très, très solides. Et puis, souvent, il y a un sentiment d'autonomie plus ou moins développé, parce que pour moi, c'est vraiment le plus compliqué. C'est-à-dire qu'ils vont parler aux élèves du projet, ils vont donner du sens, etc. Et donc, ce n'est pas tant le projet en lui-même qui marche, mais le fait qu'on a nourri le sentiment d'affiliation, de compétence et d'autonomie. Donc, c'est vrai que c'était voilà, vraiment l'idée de dire comment on passe de la théorie à quelque chose de concret sans oublier la complexité un peu du métier. Quoi.
Ouais. Bah, je vous propose qu'on garde cette optique-là pour l'épisode parce que voilà, je suis sûre que nos auditeurs, hein, qu'ils soient du premier degré ou du deuxième, enfin, du second degré, auront envie justement un petit peu de théorie, mais aussi voilà, là, dans la pratique, comment on fait. Donc c'est vraiment important qu'on garde ça en tête pour l'épisode. Et du coup, vous, dans le livre, vous n'abordez pas du tout ce qui, la motivation sous l'angle comment ça fonctionne dans le cerveau avec non, ça pas du tout.
Pas du tout. D'accord. Ça, justement, on l'a laissé vraiment à des livres qui existent déjà, de théoriques sur le fonctionnement de la motivation dans le cerveau. L'idée était vraiment de dire, là, ce qu'on veut, c'est quand même plutôt un livre sur le métier d'enseignant, c'est-à-dire sur les pratiques de classe enseignante. Sachant que pour faire bien son métier de prof, il faut savoir les pratiques pédagogiques qui sont les plus efficaces. Savoir le fonctionnement du cerveau, la dopamine, c'est très intéressant. Mais on peut très bien faire son métier de prof sans savoir ça. Après, si on le sait parce que c'est super intéressant et qu'on a envie de lire sur le sujet, il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais l'idée, c'était de dire, il y a un moment, il faut vraiment des livres qui disent qu'est-ce que je peux faire dans ma classe. Donc c'est pour ça que bon, comme de toute façon, en plus on avait un nombre de pages quand même limité, on n'est pas du tout parti sur l'aspect science cognitive de la motivation qui est voilà, parce que là on est parti, c'est pour ça qu'on a une grosse biblio à la fin, dont une partie est en anglais d'ailleurs, alors qu'est plus la biblio qu'ont fait Rebecca et Shankland et Damien Tessier, où justement l'idée c'était de dire voilà, si vous voulez aller plus loin sur la théorie de la motivation et comment ça fonctionne dans le cerveau, allez lire ces ouvrages-là, allez voir ces études-là, si vous voulez aller plus loin. Mais là, nous, dans le livre, on est vraiment sur plutôt des pratiques pédagogiques. C'est plutôt pratiques pédagogiques et...
Moi, j'ai dans ma formation. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Du coup, comment ça fonctionne ? Ah, on a un petit souci de coupure, mais ça va, on s'entend encore. Moi, ça me passionne vraiment, justement. J'ai fait un DU en neuroéducation cette année, mais même déjà les années précédentes, ça me passionnait. Donc, du coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup intégré dans ma formation Impact, en m'appuyant sur les travaux de Steve Masson, principalement, mais aussi un peu Catherine Guéguin, Angelique Stoll-Lillard. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'ai abordé parce que je trouve ça super intéressant. Alors, revenons-en à votre livre. Moi, j'ai lu le sommaire et en fait, mon œil de formatrice Montessori s'est arrêté sur soutenir le besoin d'autonomie, proposer des choix, travailler à leur propre rythme, proposer des tâches accessibles à tous, être chaleureux, empathique et soutenant, un regard positif inconditionnel sur l'élève, des relations coopératives entre les élèves, et le développement des compétences psychosociales. Alors, il y avait encore d'autres choses dans le sommaire, mais voilà, mon œil, moi, s'est arrêté vraiment sur tout ça. Et du coup, voilà, je voulais vous demander, est-ce que c'était... quelle est votre connaissance de la pédagogie Montessori ? Est-ce que vous avez conscience que tout ça, même si c'est juste des titres, hein, j'ai pas lu ce qu'il y avait derrière, ça fait partie de l'héritage de Maria Montessori ?
Oui, bien sûr, mais quand on regarde, quand on lit les grands pédagogues, il y a vraiment ces éléments-là qui ressortent. Hein. C'est pour ça que la théorie là, de la motivation qu'on propose, c'est une théorie qui est très systémique, c'est-à-dire que ça englobe ce qui fait fonctionner la pédagogie. Donc, c'est vrai que tous les grands pédagogues ont ces mêmes thèmes-là et proposent les mêmes stratégies. J'allais dire heureusement parce que si c'était complètement à l'orthogonal, ça serait étonnant quand même. Mais oui, tout à fait. Hein, c'est vraiment ce que va. Alors après, ce que va proposer Maria Montessori, elle va le décliner en activité pédagogique particulière, mais elle part du même fait de soutenir le besoin d'autonomie. Alors peut-être que. Justement, après, l'idée, c'est de regarder chacune des activités pédagogiques. Moi, je connais très peu la pédagogie Montessori. parce que j'en ai entendu parler en discutant avec des profs qui sont dans des écoles Montessori, par exemple. Moi, je sais que je suis beaucoup plus spécialisée dans le second degré, donc je la connais moins. Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant de regarder, justement, par exemple, il y a ce côté fort soutien du sentiment d'autonomie, mais peut-être là compris, peut-être plus comme le fait de faire tout seul et donc de choisir ce qu'on veut faire. Donc c'est pour ça que parfois c'est intéressant de dire, bah alors, peut-être qu'à d'autres moments, je sais qu'il y a des moments de rassemblement, par exemple dans la pédagogie Montessori, où là on va peut-être plus soutenir le besoin d'affiliation pour rééquilibrer des moments où on est beaucoup en activité autonome dans la classe, au sens de faire tout seul et pas forcément au sens de juste choisir ou du pouvoir d'agir comme ça dans notre sens. Donc c'est vrai que oui, il y a plein d'activités qui ressemblent complètement. Après, sur tout l'aspect de la communication et de la relation pédagogique avec les enfants, pour moi, c'est en effet l'énorme point fort de ces écoles Montessori, c'est la relation qu'elles veulent mettre en place avec l'enfant, avec un respect de l'enfant, sans non plus le rendre responsable. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée qu'on ne met pas l'enfant comme responsable de la situation comme le professionnel qui est en face de lui, c'est-à-dire qu'en gros, on ne lui rejette pas ses fautes ou ses erreurs quand il ne fait pas ce qu'on attend de lui, mais on va avoir vraiment un regard inconditionnel sur lui, c'est-à-dire que voilà, c'est notre élève et on essaye de faire le mieux possible pour qu'il apprenne, quel que soit l'élève qu'on a en face de nous. Donc je pense qu'en effet, il y a vraiment beaucoup de points communs. Après, voilà, c'est pas du tout ma spécialité pour moi, la pédagogie Montessori.
D'accord. Alors comment vous voulez procéder? Est-ce que vous voulez détailler certains leviers? On va pas tous les détailler, évidemment, les auditeurs pourront lire le livre, mais...
Oui, je me disais peut-être, comme vous parliez justement du côté besoin d'autonomie, peut-être voir justement dans le contexte du collège, parce que c'est vrai qu'on a cette idée peut-être des classes Montessori à l'école primaire ou en maternelle et sur ces ateliers au choix des élèves. Mmh. Et je trouve que quand on est prof du secondaire et qu'on entend ça, enfin, c'est souvent ça donne envie. Et souvent, ce qui arrive tout de suite après, mais c'est dans mon contexte, moi, c'est totalement impossible. Donc peut-être développer peut-être quelques stratégies, peut-être sur le côté besoin d'autonomie, qui pour moi est le plus compliqué. Donc autant commencer par le plus compliqué. Donc l'idée dans le livre, c'est donc on a commencer par expliquer hein, vraiment le point de vue théorique sur comment on soutient le besoin d'autonomie, le pouvoir d'agir des élèves. Et puis après, on a tout de suite éclairé par le contexte actuel du secondaire français, hein, donc du collège et du lycée, qui fait que c'est compliqué en fait pour les profs de soutenir ce besoin d'autonomie des élèves. Donc, l'idée, c'était de rappeler qu'on est dans un contexte de très forte massification scolaire. On est passé pour des enfants de 14 ans aujourd'hui. Ils sont scolarisés à plus de 98% en France. Donc on peut dire que quasiment tous les enfants qui vont au collège aujourd'hui, dans les années 50, après-guerre, pas non plus il y a 10 000 ans, on était à juste 50% des enfants qui étaient scolarisés. Donc, il faut imaginer nos classes actuellement. Bon, avec juste moitié moins des enfants. Donc, il y a eu vraiment une explosion scolaire qui n'a jamais été faite dans l'histoire de l'humanité. Hein, de mettre tous les enfants jusqu'à 18 ans aujourd'hui sur les bancs de l'école, c'est un magnifique défi, mais qui n'a vraiment jamais été fait. Hein, et après, dans un contexte qui est, depuis les années 70, dans un contexte de collège unique, où l'idée, c'était tous les enfants d'une même classe d'âge, dans un même niveau, avec le modèle une heure, une matière, un professeur, hein. Et puis sur des programmes qui ont été choisis finalement dans les années 70 comme étant calqués sur les programmes qui étaient ceux d'une très très petite élite hein, du début du XXe siècle, hein, donc avec des programmes extrêmement exigeants, un enseignement très abstrait. On est à 15 disciplines obligatoires aujourd'hui au collège. Très peu d'importance pour le corps hein, et pour l'enseignement des arts également. Donc vraiment un enseignement très abstrait, centré sur une culture générale extrêmement exigeante et centré côté forme scolaire sur le cours du prof. C'est-à-dire qu'on a une heure, enfin 55 minutes, une classe, un prof. Donc une explosion scolaire pendant tout le XXe siècle. Et puis, donc, un collège unique avec tous les enfants d'une même classe d'âge. Hein. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'éviter un maximum le redoublement qui a montré très peu d'effets. Donc, tous les enfants d'une même classe d'âge dans une même classe avec une heure, une matière, un professeur et puis un programme donc, qui a été choisi dans les années 70. Il y a eu des très grands débats. Et ce qui a été fait, c'est le choix d'une très grande exigence. Alors, c'est un très, très beau... Voilà, c'est magnifique hein, comme idéal, mais c'est un idéal extrêmement exigeant. C'est-à-dire, on s'est dit, le programme qui était fait à une minorité de la population, une élite très minoritaire au début du XXe siècle, on est dans ce contexte-là d'une massification scolaire très forte. Et en même temps, là, début du XXIe siècle, on a une envie de personnalisation. Hein, c'est-à-dire que Il y a le dilemme des professeurs de collège, c'est qu'il y a une demande très forte de rendre les apprentissages accessibles pour tous, hein, avec une demande de personnalisation des parcours, d'inclusion tout le monde dans toutes les classes, hein, toujours basé sur le système du collège unique, donc on n'a plus de filière. Donc à la fois une forte demande d'accessibilité, ce qu'on appelle l'accessibilité universelle aujourd'hui, c'est-à-dire de rendre accessible à tous les apprentissages. Donc ça, voilà, un bel idéal d'un côté. Et puis de l'autre côté, les profs sont dans un dilemme vraiment très fort, dans une forte tension, avec un devoir de sélection qui existe toujours aujourd'hui en fin de collège, qui est fondé sur l'appropriation ou non du programme scolaire, donc qui est très, très exigeant, et pour orienter ensuite vers des études qui conduisent en France à des métiers plus ou moins désirables socialement. Donc c'est une très forte pression sur les profs, cette sélection, parce qu'ils se disent « j'ai absolument besoin de respecter les exigences de mon programme pour permettre aux meilleurs élèves de réussir, parce que si je ne fais pas mon programme, je les prive de l'accès à des études qu'ils pourraient faire et à des métiers qui pourraient permettre ce pourquoi l'école a été proposée à tous, hein, c'est-à-dire l'émancipation sociale, d'accéder aux métiers qu'on veut, le métier de nos choix. Donc, il faut que j'offre ça à mes meilleurs élèves. Et en même temps, il ne faut pas que je décourage, que je démotive les élèves qui sont un petit peu plus en difficulté sur certains points de ma discipline. Et puis, dans des classes avec des effectifs quand même relativement nombreux pour un professionnel seul avec ses élèves. Donc, il y a vraiment une tension très, très forte. À cela s'ajoute dans le contexte que la lutte contre l'absentéisme qui avait débuté là, dans les années 2000 a très, très bien réussi au collège aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élèves qui, avant les années 2000, décrochaient d'eux-mêmes, c'est-à-dire ne venaient plus progressivement au collège, hein, c'est-à-dire qu'en quatrième, troisième, il y avait des élèves qu'on avait perdus. Donc, il y a une grosse lutte contre l'absentéisme qui a été fait et qui a très, très bien fonctionné, qui fait que maintenant, les élèves sont tous au collège. Enfin, les enfants restent globalement tous au collège. L'absentéisme, maintenant, se décale sur le lycée professionnel avec des élèves qu'on perd progressivement, mais cette fois-ci au lycée. Donc, maintenant, les profs ont ces élèves qui, avant, refusaient le jeu scolaire et se retiraient de l'école. Et bien là, maintenant, ils les ont en phase 2, avec en plus, maintenant, des élèves aussi à besoins éducatifs particuliers où il y a des demandes de personnalisation très fortes des familles et de la société, ce qui est complètement légitime, mais ce qui ajoute une couche quand même quand tous les élèves sont censés faire la même chose en même temps, ça va être compliqué. Si on ajoute une petite concurrence attentionnelle des contenus multimédia auxquels sont de plus en plus habitués les élèves de collège, là, qu'on se rend compte que quand on dit aux profs il faut que vous souteniez le besoin d'autonomie de vos élèves, c'est quand même quelque chose de très exigeant. Donc, on a essayé d'organiser les choses dans le livre pour dire, bon, ok, ça c'est un défi, mais quand même si le système est très contraint, on peut quand même avoir des stratégies qui permettent aux élèves de pouvoir choisir, de pouvoir décider, de pouvoir donner du sens un peu à leur présence au collège, même s'ils sont sous un contexte de très grande obligation scolaire, hein, c'est-à-dire qu'ils choisissent ni leur matière, ni les horaires à laquelle ils travaillent, ni leurs profs, ni leurs camarades de classe. Enfin, voilà, il y a très, très peu de choix. Mais à l'intérieur des 55 minutes que le prof a, lui, comment il peut dégager des manières de faire qui permettent de laisser, par exemple, du choix aux élèves ou qui donnent du sens à ce qu'ils font. Donc, on a organisé les choses comme ça. On s'est dit, bon, alors, c'est quoi le problème, par exemple, côté élève? Donc, on peut avoir des élèves qui trouvent que l'apprentissage visé, il est inutile, il est ennuyeux. Franchement, ça n'a pas de sens pour eux. On les oblige de faire ça. Donc, eux, ils s'en fichent complètement. Et puis l'objectif côté prof, lui, c'est de faire acquérir des connaissances de base tout en gardant l'enthousiasme des élèves. Parce qu'en plus, quand ils font des rencontres avec les professeurs des écoles de CM2, les professeurs des écoles disent « Ah, mais si, il adorait apprendre quand il était avec moi, je ne comprends pas ce qui s'est passé au collège. » Donc en plus, ils se sentent coupables parce qu'ils se disent « Voilà, au fur et à mesure de la 6e à la 3e, on voit s'étioler l'enthousiasme à apprendre des élèves. » Donc c'est assez décourageant. Donc, comment faire pour leur faire acquérir des connaissances dont ils ne voient pas forcément l'utilité et puis garder leur enthousiasme à apprendre. Donc, en fait, on a classé les stratégies de la moins engageante, la plus facile à mettre en œuvre au quotidien, jusqu'à une stratégie un peu plus engageante où il va falloir faire un peu plus de préparation. Puis comme ça, on a fait ça pour chacun des besoins, autonomie, compétences et affiliation. Donc, par exemple, ça donne, et on l'a fait avec des études de cas, parce que l'idée, c'était de dire, voilà, il faut que ça soit concret. Le métier de prof, c'est un métier de la relation qui est très, très concret. C'est pas qu'il faut donner des choix aux élèves, ça, c'est vague. Donc, on a essayé de faire à chaque fois des études de cas très, très concrètes. Par exemple, sur le soutien à l'autonomie, on s'est dit, si on a, une classe de quatrième en allemand. Alors à chaque fois, on a essayé de contextualiser aussi l'exemple pour voir que selon le contexte, on ne va pas faire forcément la même chose. Donc là, si on prend une classe de collège en allemand, d'un collège plutôt favorisé, avec des élèves qui sont assez proches de la culture scolaire, qui ne posent pas de problèmes de malentendus au niveau de la culture scolaire, mais ils détestent apprendre le vocabulaire, ils trouvent ça super ennuyeux, ils ne voient pas l'intérêt d'apprendre le vocabulaire alors qu'on a Google Traduction à portée main. Et donc, la prof, elle s'appelle Fabienne, évidemment des private jokes dans le livre avec plein de profs qu'on connaît et dont on admire le travail, donc on les a utilisés. Et là, Fabienne, elle se dit la première chose qu'elle peut faire, c'est au moins de rendre visible l'utilité, l'importance de l'apprentissage qui est visée. Donc c'est au moins déjà de le dire, de prendre un temps pour elle, de dire comment je pourrais justifier auprès des élèves que c'est important d'apprendre du vocabulaire. Donc là, elle va leur expliquer que vraiment le vocabulaire c'est important parce que pour se débrouiller dans langue vivante étrangère, les chercheurs en linguistique ont prouvé qu'il fallait au moins 800 mots de vocabulaire pour arriver à se débrouiller. Et puis si on veut comprendre une série, c'est 1200 mots de vocabulaire qu'il faut
maîtriser. Ouais, donc ça c'est un exemple, comprendre une série, voilà. C'est un exemple qui peut vraiment leur parler.
Oui, voilà, c'est-à-dire, ça peut avoir une utilité concrète à partir de 1200 mots. C'est vrai qu'on arrive à suivre une série dans votre langue étrangère dont vous parlez. Donc après, on a pris des exemples aussi dans d'autres matières. Hein. L'idée était d'essayer de varier avec ces 15 matières de collège. Mais dire, voilà, la première stratégie, c'est déjà expliquer aux élèves en quoi ça va être utile, ce qu'ils vont faire, en essayant, en effet, comme vous dites, de se rapprocher au plus de la culture adolescente, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait, si on se met à la place de l'élève, qu'est-ce qui pourrait faire sens à ses yeux, avoir de la valeur à ses yeux. Alors, c'est pas toujours possible, hein, évidemment, mais quand c'est possible, essayer de faire ça. Donc ça, c'est une stratégie qui est pas fatigante, qui prend pas beaucoup de temps, que le prof a souvent en tête. Elle va pas être super efficace non plus, mais bon, on sait jamais, ça va, parce que... on peut imaginer que y a des élèves sur qui on leur dit ça, mais ça ne va pas forcément suffire. Donc à chaque fois, on a évalué la prise de risque en classe. Est-ce qu'il y a une prise de risque à faire cette stratégie ? Celle-là, par exemple, pas grande prise de risque. Et puis après, on a essayé de voir quels résultats on pouvait attendre. Et puis, on a fait toujours le moment « oui, mais ». Le moment « oui, mais », c'est « oui, mais les élèves, le discours… Ça fait rien sur eux. » Et après, on a fait la réponse au « oui, mais ». Parce que c'est vrai, enfin, moi c'est ce que j'ai dans mon quotidien de formatrice, c'est en permanence je veux dire, tiens, on pourrait tester ça. Et puis, j'ai un prof qui va dire « oui, mais moi, dans ma classe, c'est pas possible ». Et ce « oui, mais », je le trouve très, très intéressant parce que c'est là où on a la complexité du métier. Et c'est vrai, c'est pas... parfois, les formateurs disent « oh, il est énervant avec son « oui, mais ». Mais je dis, oui, mais c'est ça le métier, c'est oui, mais moi dans mon contexte, là ça ne me va pas, alors qu'est-ce que vous pourriez trouver comme réponse. Donc à chaque fois on a fait ça. Après, par exemple, la deuxième stratégie, elle est déjà un petit peu, enfin, il faut déjà un peu plus travailler, c'est le côté de s'appuyer sur l'envie de jouer des élèves, l'envie de participer, c'est-à-dire que voilà, on n'est jamais encore obligé aucun enfant à jouer, hein. Là pendant les vacances, on voit, ils sont pleins d'imagination pour leur jeu. Donc l'envie de jouer, elle est très importante et c'est un levier fort de motivation. Donc, en le sachant, on peut se dire, bah, je vais utiliser ce levier. Donc, par exemple, Fabienne, elle a fait des flashcards qui ont bien marché hein, avec ses quatrièmes, en faisant des petits défis par équipe. Et donc, elle réserve 5 minutes de la fin de son cours à faire un défi d'équipe avec les flashcards où il y a d'un côté marqué le mot en allemand, de l'autre côté en français. Et puis, les élèves vont s'entraîner à partir de ça et se défier en équipe. Et donc là, on va relancer... l'intérêt des élèves juste par la modalité qui est le jeu. Donc là, il y a plein de... Ça, les profs sont très... voilà, sur la ludification des apprentissages, il y a énormément de choses en ce moment. Donc c'est une stratégie aussi possible. Et puis après, bon, celle qui est à mon avis la plus centrale dans le besoin d'autonomie, c'est donner des choix. Comme voilà, la pédagogie Montessori, c'est totalement ça. Hein. Donc, donner des choix, c'est comment dans l'apprentissage que j'ai à leur faire, je peux leur laisser une marge de choix. Sachant que le choix qu'on ne veut pas en tant que prof, c'est est-ce que je travaille ou est-ce que je ne travaille pas. Ça on n'a pas envie d'avoir donné. Ce qu'on veut, c'est ouais, il travaille, mais par contre, il a le choix de certaines choses qui ne me sont pas coûteuses pour moi en tant que prof. C'est vraiment d'évaluer si je demande à chaque élève, si j'ai 26 élèves, je leur demande chacun ce qu'ils veulent faire et que je leur prépare. Bon, évidemment, ce n'est pas possible, ça. Donc, il faut quelque chose qui ne soit pas trop coûteux, mais qui soit possible. Donc, par exemple, dans le cas de notre vocabulaire d'allemand, Fabienne a fait une liste de 10 mots et elle a dit, bon, bah, les 5 premiers, c'est indispensable parce que sur le thème qu'on est en train de faire, c'est indispensable. Et puis après, les 5 autres, bah, vous en prenez 2 au choix. Comme vous voulez, ceux qui vous tentent. Après, on peut aller plus loin encore dans le choix en disant, bah, par exemple, vous prenez le thème de votre choix. Et puis, vous apprenez 3 mots par semaine en allemand sur le thème de votre choix. Et puis, à la fin de la session, la semaine avant les vacances, je fais une interro des mots choisis. Et vous me ressortez vos mots que vous avez appris sur le thème de votre choix. Donc là, on va jouer sur le fait que les élèves se sentent plus autonomes parce qu'ils ont le pouvoir de choisir le thème qu'ils apprécient, les mots qu'ils veulent. Et que là, ça relance l'intérêt pour l'apprentissage. Donc ça, à chaque fois, c'est l'idée de dire dans son contexte, en tant que prof, comment je peux réfléchir à mettre du choix quand c'est possible. Donc, par exemple, en maths, si on a une page d'exo, on peut dire aux élèves, voilà, les exos, ils vont du plus simple au plus compliqué, il y en a 10, je vous demande d'en faire 3 sur cette page, voilà, essayez de voir selon l'énergie que vous avez aujourd'hui, selon est-ce que vous prenez 2 faciles, 1 plus dur, est-ce que vous prenez 3 durs, parce que vraiment, vous voulez vous challenger, enfin, on laisse le choix aux élèves, et puis après, le prof va par exemple distribuer le corrigé des 10 exercices, peut-être en ciblant 1 ou 2 les plus choisis en correction au tableau. Donc, c'est dès que ce n'est pas coûteux, on laisse le choix aux élèves. Donc, moi, en histoire géo, souvent, je dis, bah, finalement, je vais leur demander un travail. S'ils me le rendent à l'écrit ou à l'oral, franchement, sur ce travail-là, ils font comme ils veulent, ça m'est égal, moi, ça me va. Donc, soit ils vont répondre aux questions à l'oral ou faire un petit exposé à l'oral, soit me le rendre à l'écrit, ils choisissent. Donc, ça va être le choix sur la modalité. Donc, ça, c'est vrai que ça va être quelque chose dans le besoin d'autonomie qui est très fort, hein, le fait de laisser un maximum de choix. L'idée, souvent, ce qu'on dit, c'est de se dire, quand on rentre dans notre cours, quand on a nos 55 minutes avec une classe, c'est dire à quel moment, là, je vais leur laisser le choix, en fait. Et si je peux, pendant la classe, leur laisser 2 à 3 fois de l'heure un vrai choix sur leur façon d'apprendre, bah déjà, ça sera pas mal. Donc, et puis voilà, après, on avait aussi sur une autre tension forte dans le besoin d'autonomie, c'est vraiment entre avancer dans le programme, faire avancer le programme, ce fameux programme, alors selon les matières, il est plus ou moins pressant. Moi, je suis en histoire géo, par exemple, c'est une très, très grosse pression, le programme d'histoire géo. Dans d'autres matières, il y a moins cette pression du programme parce qu'il y a une progression spiralaire qui fait qu'on voit les choses une première fois un peu voilà, le plus simple et puis après, on approfondit au fur et à mesure. Mais bon, il y a quand même une pression forte sur le fait d'avancer dans le programme. Et puis, comment on fait entre le fait que voilà, on doit faire cours et notre programme est prescrit en France très fort, que les élèves ne le choisissent pas du tout. Et comment on fait pour respecter les valeurs de chacun, les envies de chacun, si on veut soutenir le besoin d'autonomie des élèves et que ça ait du sens pour eux. Donc ça, gros défi aussi. Hein, donc là, aussi, ça nous a fait une deuxième petite étude de cas sur Pauline, qui était en histoire géo dans un dans un petit collège où il y a deux, trois élèves dans sa classe de cinquième qui sont passionnés par l'histoire, et puis les autres qui lui disent, de toute façon,
Ça
là,
sert à
votre
rien.
cours, c'est pour les intellos, c'est pas pour nous, on s'en fiche. Donc, là, il y a des stratégies qui fonctionnent très bien, enfin, qui sont faciles à mettre en place et qui ont un effet assez fort côté ambiance de classe, hein. C'est pour ça que j'aime bien ces stratégies parce que je trouve que parfois, voilà, c'est pas la peine de changer tout son cours et de passer son mois d'août à tout revoir, mais c'est juste le fait, par exemple, d'interroger les élèves sur leur expérience de cours quand on voit que ça n'a pas l'air d'aller. C'est juste voilà, de dire, attendez, là, on s'arrête, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Je vais vous demander, alors là, souvent, il faut l'organiser, donc on le décrit bien dans le livre, comment on peut arrêter le cours, par exemple, et faire des questionnements sur le ressenti, le vécu émotionnel, d'utiliser une roue des émotions, de faire vraiment juste un stop sur votre expérience de cours et comment on peut la réajuster. Voire d'en faire un rituel. C'est vrai que c'est les rituels, c'était plutôt tout l'aspect pratique de psychologie positive qui ont été testés en classe. Donc là, c'est vraiment l'expertise de Rebecca Shankland. Et donc, c'est tous ces rituels de régulation émotionnelle qui permettent aux élèves de pouvoir dire comment ils sentent et pourquoi là, ils se sentent pas bien, qu'est-ce qu'on peut réajuster éventuellement. Sachant que juste le fait de demander comment vous vous sentez, et que s'ils disent, bah, franchement, ça nous ennuie mortellement, et ben, en fait, ça suffit déjà à améliorer en fait le besoin d'autonomie. C'est-à-dire que c'est pas du tout l'idée de rendre chaque cours passionnant pour chaque élève, ça sera pas possible. Par contre, si l'élève il a le droit d'exprimer ses émotions et dire, franchement, madame, c'est pas contre vous, mais là, franchement, moi, l'histoire, ça m'ennuie. Moi, c'est OK. Ça, on n'est pas tous obligés d'être passionnés par l'histoire. Hein. J'essaye de faire de mon mieux pour le rendre passionnant. Bon, enfin, bon, c'est pas grave. Heureusement qu'on est tous différents. Hein. Si tout le monde était passionné par l'histoire et qu'il n'y avait que des profs d'histoire, ce serait une société bizarre quand même. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. C'est-à-dire, juste le fait que l'élève puisse dire, aujourd'hui, franchement, c'est compliqué. J'ai pas envie de m'y mettre, et ben rien que ça fait qu'il va déjà mieux et qu'il est plus attentif au cours suivant. Et puis après, on peut aller plus loin dans les stratégies et de demander aux élèves leur avis sur la manière de faire cours, par exemple. De dire, par exemple, je pensais à Aurélie, qui est une prof de lettres, elle faisait beaucoup. Elle avait des petits sixièmes, des petits sixièmes, ça dépend d'où on se situe, mais donc des sixièmes, et elle leur demandait en CM2 ce qu'ils avaient vu en grammaire avec leur professeur des écoles, et comment elles faisaient cours et ce qui leur plaisait bien dans son cours de grammaire, qu'est-ce qu'ils aimaient bien comme exercice. Et donc, elle prenait, elle faisait noter, elle faisait des petits groupes, chacun notait les différentes façons de faire cours dont ils se souvenaient en CM2 et qu'ils aimaient bien. Et puis, elle prenait ça, et puis après, elle revoyait ça, puis elle disait, bah, écoutez, j'ai sélectionné, ça, je peux le faire, ça, je vous propose que ça, je vais le tester, etc. Donc ça, c'est de demander leur avis aux élèves, de manière générale, pour travailler le sentiment d'autonomie. C'est une stratégie qui marche énormément, c'est-à-dire de faire des questionnaires anonymes, de vraiment leur demander votre avis sur la composition des groupes. Là, on va travailler en groupe. Je pense il y a des matières qui ont des contraintes particulières, comme la technologie. Hein. Je pense à Noémie, une enseignante aussi en techno. Elle doit faire travailler ses élèves en groupe. C'est un impératif de la matière. Ils sont organisés en îlots, etc., avec un ordinateur. Donc, c'est un impératif. Donc, pour elle, ça ne va pas être comment vous voulez travailler, parce que de toute façon c'est en groupe, mais elle va leur demander leur avis sur la composition des groupes. Elle va leur expliquer les avantages, les inconvénients d'un groupe par affinité avec ses amis, par rapport à un groupe homogène de niveau, avec des personnes qui sont au même niveau que nous, ou alors un groupe hétérogène de niveau, avec des personnes qui arrivent mieux que nous, etc. Elle va leur expliquer les différents avantages et inconvénients, et puis après, elle va leur demander de choisir, de dire quel groupe ils ont envie de tester. Elle peut faire aussi un sociogramme, par exemple, sur la composition des groupes. Enfin, voilà. Elle va leur demander l'avis sur ce point-là, vu qu'elle ne peut pas changer les autres points. Donc, après, il y a aussi toutes les techniques pour permettre aux élèves de travailler à leur rythme. Pas simple non plus, hein, dans le contexte toujours du second degré et de ces fameuses heures de cours qui passent très rapidement. Mais il y a des possibilités quand même qui se développent de plus en plus sur le côté plan de travail. Je trouve que là, dans les modalités pédagogiques, il y a vraiment plein de choses qui se font aujourd'hui qui sont très, très intéressantes sur alterner des temps. C'est tout le travail qu'il y a en ce moment sur les classes coopératives, hein, d'alterner des temps sur des temps de coopération en groupe et des temps d'individualisation par des plans de travail, par exemple. Donc, je pensais à Ouda, qui était une professeure d'anglais, qui, elle, une fois par semaine, elle réservait 20 minutes de travail individuel sur plan de travail individuel des élèves où ils avançaient à leur rythme et puis ils leur rendaient, quand ils voulaient, les exercices qu'ils faisaient de manière individuelle une fois par semaine. Mmh. Donc là, c'était un plan de travail, mais ce n'était pas toute une classe organisée en plan de travail tout le temps. C'était juste un moment de la semaine, ce qui est possible aussi, par exemple.
Ça permet de gérer l'hétérogénéité aussi, de proposer des exercices adaptés à chacun. Enfin, pas à chacun, mais en tout cas à différents niveaux, quoi.
Ça, c'est vraiment le gros sujet qu'on a abordé dans le soutien aux besoins de compétences. C'est c'est toutes les techniques, toutes les stratégies pour gérer l'hétérogénéité et différencier le contenu des apprentissages quand c'est possible. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment dans le deuxième chapitre sur le soutien du besoin de compétences. Parce que le soutien du besoin de compétences, c'est vraiment, en tant qu'élève, je suis capable de faire ce que le prof me demande. Et c'est vrai que c'est une des grosses difficultés au collège, c'est que les élèves que le prof a en face de lui dans sa matière, ils ont des acquis différents, ils partent pas tous du même point. Et toute classe est hétérogène, mais bon, parce que l'être humain est unique et singulier, heureusement. Mais... donc, forcément, les élèves ont des acquis différents, ils ne partent pas tous du même point, ils ont des difficultés singulières. Et donc, le premier objectif dans le soutien du besoin de compétences, c'est de concevoir des dispositifs pédagogiques qui s'adaptent à cette diversité. Donc, là, pour moi, alors on a donné des stratégies justement sur comment on peut permettre de donner des tâches accessibles à tous, par exemple. Parce que sur la psychologie de la motivation, on sait qu'un des premiers éléments qui soutient le besoin de compétences, c'est déjà de réussir à faire quelque chose. Si on est en quatrième en maths et qu'on a le sentiment que jamais on a réussi à faire un exercice de maths tellement on est perdu depuis la sixième, déjà de choisir pour le prof de faire des exercices d'un niveau sixième, et il aura enlevé le fait que ce soit un niveau sixième, et qu'il lui donne un premier exercice pour tout le monde, à la limite de niveau sixième, pour dire voilà, on va commencer à avoir cet apprentissage, etc. Et que tout le monde y arrive, disons, une grande majorité des élèves y arrivent, déjà ça va renforcer le sentiment de compétence. Évidemment, on n'est pas au niveau quatrième, mais c'est juste 5 minutes dans le cours, c'est pas de le faire tout le temps, bien sûr. Et juste pour donner ce sentiment de réussite à un maximum d'élèves, pour après continuer à les lancer. Et puis après, il y a toutes les stratégies des tâches différenciées. Et en effet, le plan de travail permet, hein, toutes les techniques comme ça de personnalisation permettent ça. Avec là, peut-être plus de temps de préparation côté prof, quand même.
Et l'avantage, c'est qu'on fait en sexe, c'est la réussite qui provoque la motivation. Donc, le fait de réussir, voilà, s'ils ne savent pas que c'était un exercice de sixième alors qu'ils sont en quatrième, mais le fait de réussir, ça va leur permettre, du coup, voilà, de croire en eux aussi.
Ah, mais complètement, parce qu'en fait, ce deuxième besoin fondamental, le besoin de compétences, c'est ce que vous dites, il s'active quand on réussit quelque chose, quelle que soit la chose, hein, parce que donc, le besoin d'apprendre, il est récompensé biologiquement chez l'être humain, hein, c'est-à-dire que là, pour le coup, on a de la dopamine au bout des doigts qui circule quand on arrive à faire n'importe quoi, en fait, quand on arrive juste à réussir un apprentissage, en fait, quel qu'il soit, même si cet apprentissage n'a pas de sens pour nous, c'est ça qui est bien, c'est ça qui sauve quand même les profs dans ce contexte d'obligation scolaire, c'est que juste le fait, même un élève qui n'aime pas les maths, qui déteste apprendre ses dates en histoire, etc., juste le fait d'arriver à remplir un quiz en histoire et que c'est bon, juste ça va être très très agréable pour lui, et plus il va, là c'est vraiment en effet ce qui est côté comment fonctionne la motivation dans le cerveau, c'est vrai que tous ces apprentissages de réussite, plus il en a, plus son cerveau va se souvenir que c'est quand même très agréable d'apprendre, qu'il y a des moments où c'est très très sympa et que vraiment on a du plaisir. C'est vrai qu'un élève en décrochage scolaire qui passe sa journée à rater, ou à pas réussir, ou à pas s'engager dans...
Depuis des années, pas que sa journée, enfin voilà, ça fait des années qu'il rate et qu'il se dit non, de toute façon ça j'y arriverai pas, bah du coup voilà, il se dit ça sert à rien de tenter, en fait l'analyse, enfin le coût là, effort, bénéfice, voilà, il est défavorable, quoi.
C'est ça. Donc c'est toute cette impuissance apprise qui a été en effet engrangée depuis longtemps, et qui par contre, ce qui est encourageant, on va dire, c'est que elle peut être, enfin, on peut contrecarrer cette impuissance apprise et relancer un peu l'envie d'apprendre par ces expériences réussies en disant oh non, mais là, oui, ok, mais me raconte pas que quand tu étais petite, tu n'y arrivais pas, etc. C'est pas ça. Là, on est là, maintenant, aujourd'hui, tu as réussi cet exercice et c'est top, c'est génial, bravo. Donc maintenant, tu essaies le deuxième. C'est, et peu à peu, ce qu'on espère, c'est arriver à ce que l'élève s'accroche et apprenne à son, voilà, selon ses capacités et là où il en est, mais qui progresse. Il y a des études qui sont assez désespérantes hein, là-dessus. C'est pour ça qu'il faut, enfin, c'est pour ça que c'est un sentiment qu'il faut vraiment travailler quand on est prof, parce que il y a des élèves qui régressent hein, de la sixième à la troisième. Par exemple, alors, il y a certaines matières, mais donc, par exemple en mathématiques ou en orthographe, il y a des études qui montrent des régressions. C'est vrai que c'est très interpellant hein, quand on est prof de se dire, tu passes autant de temps au collège, il régresse. Comment c'est possible? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment de travailler ce besoin de compétences. Et c'est central pour au moins que chaque élève progresse. Et après, tout le monde n'arrivera pas forcément au même point. Mais notre objectif, ce n'est pas d'avoir une société uniforme où tout le monde sait exactement la même chose. Ce n'est pas grave. Mais par contre, c'est juste d'avoir le sentiment de progresser et d'avoir appris quelque chose en sortant d'un cours. C'est tout. Après, c'est le problème des. Quand on est prof, souvent, on a ce rêve que voilà, chacun performe un maximum dans notre matière, que chaque élève y arrive super bien. Et c'est vrai qu'il faut faire un tout petit peu le deuil du fait que chaque élève va arriver à un très haut niveau dans notre matière. Ce n'est pas forcément l'objectif qu'on peut se fixer. C'est juste chacun progresse et on aura soutenu leurs besoins de compétences si chacun progresse au cours de l'année.
Super, c'est super intéressant. Est-ce que vous voulez parler un petit peu du troisième levier, du coup, l'affiliation, c'est ça, on n'en a pas parlé
oui,
du tout.
Oui, c'est ça. L'affiliation, ça va être des pratiques qui sont toutes les pratiques qui favorisent l'implication des élèves en classe. Donc là, il y a un aspect relationnel qui est fort. Alors après, évidemment, on a c'est un peu artificiel hein, de séparer ces trois besoins. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a fait un quatrième chapitre qui réunit les trois besoins avec des exemples vraiment plus larges. Et puis, on a fait une dernière partie un peu pour préparer soi-même ses séquences hein, en tant que prof pour essayer de nourrir les trois besoins. Mais pédagogiquement, on trouvait que c'était pas mal aussi de se dire voilà, comment je nourris spécifiquement le besoin d'affiliation des élèves. Donc là, les deux problèmes sur lesquels on a travaillé, c'est le problème côté élève quand ils ont l'impression que, quand ils disent non, mais c'est ce prof, il ne nous aime pas. Et là, le prof, normalement, répond voilà, je ne suis pas là pour vous aimer. Et puis, voilà, ça monte comme ça et ça n'arrange pas. Donc là, c'est le premier objectif côté prof, c'est comment je tiens ma classe au sens où comment j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire dans ma classe et que j'ai le sentiment en sortant de mon heure que j'ai bien fait mon travail. Donc comment j'ai de l'autorité sur ma classe, on va dire, tout en ayant une bonne relation avec mes élèves, tout en ayant la relation ne soit pas tendue. Alors pourquoi on veut une relation pédagogique qui soit plutôt chaleureuse et soutenante? C'est pas juste pour que les enfants se sentent mieux à l'école, ce qui serait déjà intéressant, mais si nous, dans notre objectif en tant que prof, c'est que les élèves apprennent le plus possible dans nos cours, limite, c'est ça notre objectif. Et toutes les théories de psychologie positive et de psychologie de la motivation, il y a un livre de Maëlle Vira là, que j'aime beaucoup là, sur quand les profs aiment les élèves, qui résume très très bien toutes ces théories, donc on a mis quelques extraits dans notre livre, montre bien que ce qui fonctionne pour les apprentissages, c'est quand les élèves se sentent soutenus et trouvent que leur prof les apprécie et les soutient et est chaleureux avec eux. Donc, c'est juste que ça marche mieux pour apprendre, que quand on veut apprendre quelque chose, si on se sent respecté, soutenu et que la personne qui est en face de nous, elle tient à nous et qu'elle tient à notre réussite, on apprend mieux. Donc, c'est tout. Donc, c'est pour ça. C'est une attitude qui est professionnel, le fait de devoir, par exemple, être chaleureux et empathique envers les élèves pour faire attention à comment ils se sentent, pour soutenir leurs efforts et montrer que ça compte pour nous. Ça, c'est des attitudes qui sont professionnelles, hein. C'est-à-dire que là, il y a vraiment En fait, on hérite d'une tradition française de la relation pédagogique qui est vue que donc pendant le XXe siècle, l'idéal était d'une relation pédagogique froide et distante avec les élèves. En se disant, justement, il faut qu'il y ait cette idée de juste distance qui avait été développée, il faut se monter froid, impartial, il ne faut surtout pas montrer qu'on tient aux élèves. Enfin, voilà, il y avait vraiment... Donc on est baigné, hein, les profs français, on est baigné dans une culture où... voilà, ça fait, c'est une tradition, hein, qui a été majoritaire, on va dire, pendant le XXe siècle, de dire il faut être froid, il faut être distant. Et puis, ce qui marche bien en communication, c'est de casser les élèves, de les humilier un peu. Donc, la façon de tenir la classe qui était conseillée encore dans les livres de pédagogie fin du XXe siècle, hein, c'était vraiment l'humiliation, en particulier l'humiliation publique, hein, des élèves, d'envoyer les élèves au tableau, de dire t'as vu comment t'es nul, en disant voilà, c'est ça qui va faire que déjà on va avoir de l'autorité, les élèves vont nous respecter parce que, comme ça, en humiliant, alors, c'est tous les travaux de Pierre Merle, hein, qui a bien montré en plus. Un choix de quel élève on humilie, hein, c'est jamais celui qui est, c'est jamais le caïd qui répond bien et qui a de la répartie, parce que celui-là il est dangereux pour les profs, donc on va pas le prendre, mais on va prendre tel élève. Enfin, voilà, il y a vraiment une tradition de la relation pédagogique dont on a hérité et qui rend notre travail compliqué, parce que être chaleureux, soutenant et empathique de manière professionnelle, ça n'a pas été du tout dans la norme relationnelle prônée en France. Donc, il y avait plutôt ce côté voilà, de ne pas forcément sourire, d'être très froid. Et aujourd'hui, les profs sont un peu perdus parce qu'il y a une demande de la société de bienveillance, d'être beaucoup plus soutenant et chaleureux. En même temps, on est face à des classes d'adolescents, voilà, souvent bien serrées là, dans leur petite classe, qui n'ont pas le choix d'être là, hein, qui sont contraints d'être là, et un prof tout seul, et il se dit, il faut que je tienne ma classe. Donc là, on a vraiment développé dans ce chapitre-là toutes les stratégies pour arriver à avoir en particulier des outils langagiers, des manières de parler, hein, qui fassent que les élèves se sentent un maximum respectés, en se disant là on est vraiment sur une logique d'exemple, où le prof se montre en exemple du respect qu'il veut dans une relation pédagogique. Donc là, on a pas mal développé le côté aussi dialogue pour essayer de montrer ça, parce que c'est vrai que c'est pas le plus simple de montrer comment on peut être chaleureux et soutenant et empathique dans un livre. Donc on a donné pas mal d'exemples, hein, sur des profs qui, quand ils voient qu'une classe, que le climat se dégrade entre lui et la classe, comment on peut retisser un lien. La position, c'est qu'il faut jamais baisser les bras, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas bah, j'attendrai l'année prochaine, la classe elle sera mieux, hein, parce que l'année peut être longue, hein, comme ça. Donc l'idée, c'est qu'à tous les moments, on peut dire voilà, bah, je vais essayer de vraiment. Je le prépare. Je l'anticipe. Par exemple, on sait que souvent les élèves les plus perturbateurs, on va les avoir tout le temps. Enfin, on va beaucoup tomber sur eux parce qu'on voit beaucoup leur comportement tellement ils nous énervent. Parce que souvent, il y a trois, bien sûr, sur eux. Donc, on va essayer, par exemple, de faire des stratégies où on va encourager les bons comportements des élèves qui sont autour de l'élève qui nous perturbe, et on va rien dire sur le comportement de l'élève qui nous perturbe. On essaye ça pendant un cours, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qu'on va s'imposer. Hein. C'est tout sauf naturel, en fait, la relation pédagogique. C'est ça l'idée, c'est que c'est une relation qui est professionnelle. C'est-à-dire que j'ai ces élèves-là, je n'ai pas le choix d'avoir ces élèves-là, et je sais que plus la relation sera bonne avec eux, mieux ils apprendront. Donc, comment je fais avec ça professionnellement? C'est pas naturel. Je suis pas avec mes copains le soir à un dîner. C'est pas du tout ça. On n'est pas dans une relation naturelle d'amitié. C'est absolument pas ça. C'est une relation professionnelle où on se montre soutenant. On montre aussi un regard, ce qu'on appelle, ça c'est toujours les termes en psychologie de l'éducation, un regard positif inconditionnel sur l'élève. C'est-à-dire, ce comportement, il est insupportable et on va traiter le comportement. Par contre, voilà, une fois qu'on a traité le comportement, le regard, il est inconditionnellement positif sur l'élève. C'est-à-dire que voilà, maintenant, on va essayer, on se dit, bon, là, il y a eu un problème, un cours, on l'a traité. Maintenant, je vais essayer de valoriser cet élève-là exprès pour lui montrer que maintenant, c'est OK, c'est bon, voilà, c'est fini le comportement qu'il a eu. Et maintenant, on reconstruit une bonne relation avec lui. Et puis après, dans la deuxième grosse partie dans ce chapitre sur l'affiliation, c'est quand le deuxième gros problème du prof, c'est quand les élèves ne s'entendent pas entre eux. Et quand le climat de classe est tendu. Donc là, c'est toutes les stratégies pour développer des habiletés coopératives entre les élèves et de communication entre les élèves pour construire un climat de sécurité dans la classe qui soit le plus efficace possible pour que tout le monde se sente bien pour apprendre. Donc là, c'est vraiment toutes les techniques pour comment on agit face aux moqueries, comment on arrive à réagir vraiment à la moindre insulte entre les élèves, à la moindre moquerie entre les élèves. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce que nous, ce qu'on a développé, c'est tout ce qui est règles de vie de classe, la valorisation de tout ce qui est les comportements prosociaux, c'est-à-dire comment on valorise les comportements qui amènent une bonne ambiance de classe chez les élèves. Et puis après, sur comment on arrive à verbaliser aussi ce qui fait qu'on est heureux de travailler dans une classe, qu'on se sent respecté, etc. Donc là, il y a plein de petites techniques aussi qu'on développe dans cette troisième partie.
Un beau programme.
Ouais, c'est ça.
Bon, bah merci beaucoup, Natacha. Avant que je vous pose les trois questions habituelles, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter, qu'on aurait oublié ?
Non, vraiment de dire qu'à la fin, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment une synthèse hein, quand même de voilà, qu'est-ce que ça peut donner quand on nourrit les trois besoins. Et c'est là où on a plus développé cette idée, avec des exemples plus longs sur l'année. Et puis au niveau des établissements, de l'établissement et pas seulement de la classe, sur tout ce qui est développement des compétences psychosociales des élèves pour avoir une accessibilité maximum du collège aujourd'hui. Hein, sachant que là, le collège, il concerne tous les élèves aujourd'hui. Donc, comment faire pour qu'il y ait un climat serein pour tout le monde dans le collège? Et donc là, on a développé plus des exemples au niveau du collège. Sachant que le livre, on voulait vraiment être au niveau du prof avec sa classe. Et puis, dans la dernière partie, on est au niveau de l'équipe autour d'une classe ou carrément de l'équipe des profs et puis des chefs d'établissement sur comment, au niveau d'un collège, on peut travailler le climat le plus serein possible d'apprentissage.
Super. Eh bien, écoutez, on va terminer par les trois questions habituelles. Alors, peu importe l'ordre, une citation peut-être.
Oui, alors, citation... Je suis très Gandhi en citation. Je trouve que c'est quand même un grand inspirateur par son action non violente qui m'inspire beaucoup. Donc, j'aime bien la citation « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous ». D'abord, je le fais moi, puis après, je vois les autres.
C'est pas la citation « Soit le changement que tu veux voir dans le monde ». Quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Oui, voilà, ça, c'est la même. Oui, il y a différentes formulations. Ouais. Soit le changement que tu vois dans le monde, elle est encore plus. Ouais, c'est encore. Ça fait encore. c'est encore plus exigeant, je trouve. Parce que j'aimais bien le côté commencer par changer vous-même. Et puis, cette idée-là, j'aime bien.
Ok. Et est-ce que vous auriez un livre à nous partager?
C'est vrai que. Bon, il y a une très grosse biblio dans le livre, donc peut-être que je ne vais pas forcément conseiller les livres sur la motivation et les méthodes d'apprentissage, parce qu'ils y sont beaucoup dans le livre, mais je dirais que peut-être quelque chose qui a vraiment, moi, changé ma manière de voir les enfants, l'éducation et l'enseignement en général, c'est les livres d'Olivier Morel, et en particulier son livre sur « Oui, la nature humaine est bonne », qui explique comment la violence éducative ordinaire peut faire des sociétés violentes. Et je trouve que ce livre-là, moi, ça a été vraiment quelque chose de très marquant pour moi. Donc, je trouve voilà, que si on veut changer, alors là, il y a une partie sur l'enseignement, mais sinon, c'est plus général sur les enfants. Mais je trouve que ce livre, oui, la nature humaine est bonne, et vraiment, d'Olivier Morel, je le conseillerais. Mais bon, il y en a beaucoup. Hein.
Et on va terminer par un coup de cœur ou un coup de gueule.
Je prendrais peut-être un coup de gueule parce que je trouve que la colère peut pousser à de l'engagement positif, ça peut révéler aussi des causes qui nous tiennent à cœur. Et là, bah, pendant ces vacances, j'étais un peu choquée, moi, par les messages qu'il y a parfois contre l'éducation bienveillante ou l'éducation sans violence et sur le fait de dire aux parents « Non, mais il ne faut pas les culpabiliser, il faut leur dire de se faire confiance, etc. » Oui, je dirais que ça me choque beaucoup, ces messages-là, le côté faites-vous confiance, vous verrez bien, vous avez tout en vous. Je trouve que cette idée de dire qu'il n'y a pas de compétences parentales, qu'on n'a pas à se former, qu'on verra bien, bah, ça fait des situations très violentes au quotidien pour les enfants. On est encore à un enfant qui meurt tous les 5 jours hein, dans le cercle familial hein, en France, donc plus tous ceux qui subissent des maltraitances au quotidien. Et donc je trouve que voilà, de dire il y a Isabelle Filioza, dont j'aime énormément les livres, et puis je trouve qu'elle le dit bien. Elle dit bah non, il faut des outils, il faut apprendre à réguler ses émotions, il faut apprendre à savoir comment fonctionne un enfant, à décoder ses besoins, etc. Donc voilà, bon coup de gueule, ça serait sur de dire non, on ne fait pas juste confiance quand ça ne marche pas avec nos enfants. On se forme.
C'est ça.
Et il y a plein de formations comme celles que vous proposez, les ateliers Filioza, Faber et Mazich, méthode Gordon, la discipline positive. Je trouve qu'il y a énormément d'ateliers en ce moment. Il y a beaucoup de livres aussi qui sont publiés. Et voilà, donc ça serait lisez, formez-vous. Voilà, mais on ne baisse pas les bras.
C'est ça, je partage votre coup de gueule. Hier, dans la salle d'attente du kiné pour ma fille, ouais. Des parents avec une petite, je me suis dit, mais en fait, non, mais être parent, ça s'apprend, en fait. Là, il faut qu'ils apprennent, là, c'est urgent.
Ouais, mais voilà. Et je trouve que dans ce contexte de vacances où les enfants sont 24 heures sur 24 avec leurs parents, c'est vrai qu'on voit beaucoup de situations. Voilà, on se dit, voilà, il y a des formations, il y a plein de choses qui existent, et voilà, et les parents essayent de faire au mieux. Hein, pour faire au mieux. Voilà, on peut s'informer, se former. Ouais.
Enfin, moi, j'accompagne pas les parents, j'accompagne vraiment les professeurs des écoles. Voilà, ouais. C'est plus mon. Évidemment, même si la discipline positive, voilà, est un, ça, on sent que ça s'imprègne. C'est pas voilà ma cible, c'est vraiment les professeurs des écoles plus que les parents.
C'est pour ça que moi aussi, je suis dans la formation des profs, parce que les profs passent 6 heures par jour avec les enfants. C'est donc, mine de rien, on n'a pas le choix de ses parents. Donc, de toute façon, on tombe dans le milieu familial dans lequel on tombe. On n'a pas le choix. Ouais. Mais mine de rien, c'est tout le travail de Boris Cyrulnik hein, sur les tuteurs de résilience. Hein. Un prof des écoles, un prof au collège, au lycée, ça peut changer une vie. Hein.
C'est donc, ça. On a un impact. On a un impact.
Un énorme impact.
Eh ben, merci beaucoup, Natacha.
Merci, Céline.